La lutte des classes ou la lutte des centiles. Car tel est au fond notre unique objectif, pouvoir comparer la structure des inégalités en vigueur dans des sociétés très éloignées dans le temps et l'espace, des sociétés que tout oppose a priori, et en particulier des sociétés utilisant des mots et des notions totalement différents pour désigner les groupes sociaux qui les composent. Les notions de décile et de centile sont un peu abstraites et manquent certainement de poésie. Spontanément, il est plus facile de s'identifier aux catégories de son temps, paysan ou noble, prolétaire ou bourgeois, employé ou cadre supérieur, serveur ou trader. Mais la beauté des déciles et des centiles est précisément de pouvoir mettre en correspondance des inégalités et des époques impossibles à comparer autrement et de fournir un langage commun qui, en principe, peut être accepté par tous. Quand cela sera nécessaire, nous décomposerons plus finement les groupes considérés à l'aide de centiles ou même de millimes afin de rendre justice au caractère continu de l'inégalité sociale. En particulier, dans chaque société, y compris la plus égalitaire, le décile supérieur est véritablement un monde en soi. Il regroupe des personnes dont le revenu est à peine 2 ou 3 fois supérieur au revenu moyen, et d'autres dont les ressources sont plusieurs dizaines de fois supérieures. Dans un premier temps, il est toujours éclairant de décomposer le décile supérieur en 2 sous-groupes. Le centile supérieur d'une part, que l'on peut appeler les classes dominantes, toujours pour fixer les idées et sans chercher à prétendre que ce terme est véritablement meilleur qu'un autre, et les 9 centiles suivants d'autre part, les classes aisées. Par exemple, si l'on considère le cas de l'inégalité relativement faible, scandinave, des revenus du travail représentés dans le tableau 7.1 avec les 20% de la masse salariale pour les 10% des travailleurs les mieux payés, on constate que la part reçue par les 1% les mieux payés est typiquement de l'ordre de 5% de la masse salariale. Par définition, cela signifie que les 1% des salariés les mieux payés gagnent en moyenne 5 fois le salaire moyen, soit 10 000 euros par mois dans une société où le salaire moyen est de 2 000 euros par mois. Autrement dit, les 10% les mieux payés gagnent en moyenne 4 000 euros par mois, mais au sein de ce groupe, les 1% les mieux payés gagnent en moyenne de l'ordre de 10 000 euros par mois, et les 9% suivants gagnent en moyenne environ 3 330 euros. Si l'on continuait la décomposition plus loin et que l'on examinait le millime supérieur, les 0,1% les mieux payés, au sein du centile supérieur, alors on trouverait des personnes gagnant plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, et même quelques-unes avec quelques centaines de milliers d'euros par mois, y compris dans les pays scandinaves des années 1970-1980. Simplement, ces personnes seraient peu nombreuses, si bien que leur poids dans la masse des revenus du travail serait relativement limité. Pour juger de l'inégalité d'une société, il ne suffit donc pas de constater que certains revenus sont très élevés. Dire par exemple que l'échelle des salaires va de 1 à 10 ou bien de 1 à 100 ne nous dit en réalité pas grand-chose. Il faut également savoir combien de personnes atteignent ces niveaux. De ce point de vue, la part des revenus ou des patrimoines détenus par le décile supérieur ou le centile supérieur constitue un indicateur pertinent pour apprécier l'inégalité d'une société, puisqu'il prend en compte non seulement l'existence de revenus ou patrimoines extrêmes, mais également le nombre de personnes réellement concernées par ces valeurs très élevées. Le centile supérieur est un groupe particulièrement intéressant à étudier dans le cadre de notre enquête historique, car il représente une fraction certes très minoritaire de la population, par définition, mais en même temps un groupe social beaucoup plus vaste que les fines élites de quelques dizaines ou centaines de membres qui retiennent parfois l'attention, comme les 200 familles en France qui, dans l'entre-deux-guerres, faisaient référence aux 200 plus gros actionnaires de la Banque de France, ou bien les classements de fortune publiés de nos jours dans Forbes et les magazines équivalents qui portent généralement sur quelques centaines de personnes. Dans un pays de près de 65 millions d'habitants comme la France de 2013, soit d'environ 50 millions pour la population majeure, le centile supérieur regroupe tout de même 500 000 personnes adultes. Dans un pays de 320 millions d'habitants comme les États-Unis, soit 260 millions d'adultes, le centile supérieur est peuplé de 2,6 millions de personnes majeures. Il s'agit donc de groupes sociaux très importants numériquement, des groupes qu'il est impossible de ne pas remarquer dans un pays, surtout lorsqu'ils ont tendance à habiter les mêmes villes, voire les mêmes quartiers. Dans tous les pays, le centile supérieur prend de la place dans le paysage social, et pas seulement de l'argent. À bien y regarder, on peut considérer que dans toutes les sociétés, qu'il s'agisse de la France de 1789, entre 1% et 2% de la population pour l'aristocratie, ou des États-Unis du début des années 2010, où le mouvement Occupy Wall Street a explicitement ciblé ce groupe des 1% les plus riches, le centile supérieur représente une population suffisamment significative numériquement pour structurer fortement le paysage social et l'ordre politique et économique dans son ensemble. On voit au passage tout l'intérêt de ces notions de décile et de centile. Par quel miracle pourrait-on espérer comparer les inégalités dans des sociétés aussi différentes que la France de 1789 ou les États-Unis de 2013, si ce n'est en tentant minutieusement de définir les déciles et les centiles et d'estimer les parts qu'ils détiennent dans la richesse nationale ici et là? Un tel exercice ne permet certes pas de régler tous les problèmes et de répondre à toutes les questions, mais c'est beaucoup mieux que de ne rien pouvoir dire du tout. Nous essaierons donc de déterminer dans quelle mesure la domination des 1% ainsi mesurée était plus forte sous Louis XVI ou sous George Bush et Barack Obama. Le cas du mouvement Occupy montre également que ce langage commun, et en particulier ce concept de centile supérieur, même s'il peut sembler un peu abstrait de prime abord, peut permettre de mettre au jour des évolutions spectaculaires des inégalités et des réalités frappantes, et par là même peut constituer une grille de lecture utile de la société, dans le cadre de mobilisations sociales et politiques de grande ampleur, fondées sur des slogans a priori inattendus « We are the 99%. » mais qui finalement ne sont pas sans rappeler en esprit le fameux pamphlet « Qu'est-ce que le tiers-État ?» publié en janvier 1789 par l'abbé Sieyès. « Qu'est-ce que le tiers-État ? Tout. Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique ? Rien. Que demande-t-il ? À y devenir quelque chose. » Précisons également que les hiérarchies en jeu, et donc les notions de décile et de centile, ne sont bien sûr jamais exactement les mêmes pour les revenus du travail et pour les patrimoines. Les personnes qui disposent des 10% des revenus du travail les plus élevés ou des 50% les plus faibles ne sont pas les mêmes que celles qui possèdent les 10% des patrimoines les plus élevés ou les 50% les plus faibles. Les 1% des revenus du travail ne sont pas les 1% des patrimoines. Les déciles et les centiles sont définis séparément pour les revenus du travail d'une part, pour la propriété du capital d'autre part, et finalement pour le revenu total issu du travail et du capital, qui fait la synthèse des deux dimensions et qui définit donc une hiérarchie sociale composite résultant des deux premières. Il est essentiel de toujours bien préciser à quelle hiérarchie il est fait référence. Dans les sociétés traditionnelles, la corrélation entre les deux dimensions était souvent négative. Les détenteurs de patrimoines importants ne travaillaient pas et se trouvaient donc tout en bas de la hiérarchie des revenus du travail. Dans les sociétés modernes, la corrélation est généralement positive, mais elle n'est jamais complète. Le coefficient de corrélation est toujours inférieur à 1. Par exemple, il existe toujours de nombreuses personnes qui font partie de la classe supérieure en termes de revenus du travail, mais de la classe populaire en termes de patrimoine et inversement. L'inégalité sociale est multidimensionnelle, de même que le conflit politique. Notons enfin que les répartitions de revenus et de patrimoine, décrites dans les tableaux 7.1, 7.3 et analysées dans ce chapitre et les suivants, sont toujours des répartitions dites primaires, c'est-à-dire avant prise en compte des impôts. Selon la forme que prennent ces derniers et les services publics et transferts qu'ils financent, plus ou moins progressives ou régressives, c'est-à-dire pesant plus ou moins lourdement sur les différents groupes de revenus et de patrimoine à mesure que l'on s'élève dans la hiérarchie sociale, la répartition après impôt peut être plus ou moins fortement égalitaire que la répartition avant impôt. Nous étudierons tout cela dans la quatrième partie de ce livre, de même que l'ensemble des questions liées à la redistribution. À ce stade, seul nous intéresse la répartition avant l'impôt. Suivant l'usage, les revenus de remplacement, c'est-à-dire les pensions de retraite et les allocations chômage destinées à remplacer la perte de revenus du travail, financées par des cotisations assises sur les salaires, selon une logique contributive, ont été inclus dans les revenus primaires du travail. Les inégalités face au travail, des inégalités apaisées. Reprenons l'examen des ordres de grandeur des inégalités. Dans quelle mesure les inégalités des revenus du travail sont-elles des inégalités modérées, raisonnables, voire apaisées ? Certes, Les inégalités face au travail sont toujours beaucoup plus réduites que celles face au capital. On aurait bien tort cependant de les négliger, d'une part parce que les revenus du travail représentent généralement entre les 2/3 et les 3/4 du revenu national, et d'autre part parce que les écarts entre les répartitions des revenus du travail en vigueur dans les différents pays sont tout à fait substantiels, ce qui suggère que les politiques publiques et les différences nationales peuvent avoir des conséquences majeures sur ces inégalités et sur les conditions de vie de vastes groupes de la population. Dans les pays les plus égalitaires en matière de revenus du travail, comme les pays scandinaves dans les années 1970-1980, les 10% les mieux payés reçoivent environ 20% de la masse des revenus du travail, et les 50% les moins bien payés en reçoivent 35%. Dans les pays moyennement inégalitaires, comme la plupart des pays européens aujourd'hui, par exemple la France ou l'Allemagne, le premier groupe reçoit de l'ordre de 25-30% du total et le second environ 30%. Et dans les pays fortement inégalitaires, comme les États-Unis au début des années 2010, sans doute l'un des plus hauts niveaux d'inégalité des revenus du travail jamais observés, comme nous le verrons plus loin, le décile supérieur atteint 35% du total, alors que la moitié inférieure tombe à 25%. Autrement dit, l'équilibre entre les deux groupes est presque totalement inversé. Les 50% les moins bien payés reçoivent près de 2 fois plus de masse salariale au total que les 10% les mieux payés dans les pays les plus égalitaires, ce qui est bien le moins, jugeront certains, puisqu'ils sont 5 fois plus nombreux, et 1/3 de moins dans les pays les plus inégalitaires. Si la tendance à la concentration croissante des revenus du travail observée aux États-Unis au cours des dernières décennies devait se poursuivre, alors les 50% les moins bien payés pourraient recevoir moitié moins de masse salariale que les 10% les mieux payés aux alentours de 2030. Voir tableau 7.1. Rien ne dit évidemment que cette évolution va effectivement se poursuivre, mais cela permet d'illustrer le fait que les transformations en cours n'ont rien d'anodin. Concrètement, pour un même salaire moyen de 2000 euros par mois, la répartition scandinave la plus égalitaire correspond à 4000 euros par mois pour les 10% les mieux payés, dont 10 000 euros pour les 1% les mieux payés, 2 250 euros pour les 40% du milieu et 1 400 euros pour les 50% les moins bien payés, alors que la répartition américaine la plus inégalitaire observée à ce jour correspond à une hiérarchie nettement plus marquée. 7 000 euros pour les 10% du haut, dont 24 000 euros pour les 1%, 2 000 euros pour les 40% du milieu et seulement 1 000 euros par mois pour les 50% du bas. Pour la moitié la moins favorisée de la population, l'écart entre les différentes répartitions est donc loin d'être négligeable. Quand on dispose toute sa vie de 40% de revenus supplémentaires, 1 400 euros au lieu de 1 000 euros, sans même prendre en compte les effets du système d'impôts et de transferts, cela entraîne des conséquences considérables sur les choix de vie que l'on peut se permettre, la capacité à se loger, à partir ou non en vacances, les dépenses que l'on peut consacrer à ses projets, à ses enfants, etc. Il faut également souligner que dans la plupart des pays, les femmes sont en pratique massivement surreprésentées au sein des 50% des salaires les plus bas, si bien que ces fortes différences entre pays reflètent pour une part importante des différences dans les écarts de salaire hommes-femmes, écarts qui sont plus réduits qu'ailleurs en Europe du Nord. Pour les parties les plus favorisées de la population, les écarts entre répartitions sont également très significatifs. Quand on dispose toute sa vie de 7 000 euros par mois au lieu de 4 000 euros, ou mieux encore de 24 000 euros au lieu de 10 000 euros, on ne fait pas les mêmes dépenses et on dispose de plus de pouvoir non seulement sur ses achats, mais également sur les autres, par exemple pour mettre à son service les personnes moins bien payées. Si la tendance américaine devait se poursuivre, les revenus mensuels en 2030, toujours pour un même salaire moyen de 2 000 euros par mois, pourraient être de 9 000 euros pour les 10% du haut, dont 34 000 euros pour les 1%, 1 750 euros pour les 40% du milieu et seulement 800 euros par mois pour les 50% du bas. Concrètement, en y consacrant une petite part de leurs revenus, les 10% du haut pourraient embaucher comme domestiques une bonne part des 50% du bas. On voit donc que pour un même salaire moyen, différentes répartitions des revenus du travail peuvent conduire à des réalités sociales et économiques extrêmement éloignées pour les groupes sociaux concernés et dans certains cas à des inégalités qui n'ont rien de paisible. Pour toutes ces raisons, il est essentiel de comprendre les forces économiques, sociales et politiques qui déterminent le degré d'inégalité des revenus du travail en vigueur dans les différentes sociétés.